Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Fidèle au poste, premier week-end où tout le monde va pouvoir sortir un petit peu partout en France, donc à moins de 100 km bien évidemment. On en parlera évidemment à partir de 11h. Qu'avez-vous regardé hier à la télévision? On aura également Rémi Pernelet avec nous, Gérard Collard pour nous conseiller des très bons livres, et puis Eric Antoine qui sera notre invité du jour pour parler d'incroyables talents avec les 25 moments inoubliables. Ce sera lundi prochain et il va nous raconter son confinement et puis cette émission un petit peu particulière. Voilà, commençons avec les audiences. Vous avez regardé Why Women Kill, Gilles, vous hier?
Oui, j'ai regardé, oh là là.
C'est bien.
J'ai hâte de voir le dernier épisode. Oui, bien sûr.
Ouais, moi aussi,
là, c'est
3
parti,
millions.
Hein. Les vrais visages, on les voit encore de plus en plus.
Absolument. Deuxième position pour M6, 3 536 000 téléspectateurs. C'est 300 000 de plus que la semaine dernière. Ça a plutôt très bien fonctionné. Et puis en tête, c'était TF1 avec le dîner de cons, 7 oui. 342 000. C'est le carton, 28,2% de part d'audience. C'est plus que les visiteurs, dites donc. On a Eliane de Béziers qui est en ligne avec nous. Bonjour Eliane.
Bonjour.
Alors, c'est ce que vous avez regardé, vous, hier?
Ah, j'ai regardé le dîner de con. On en avait bien besoin à cette période, hein, parce que j'ai eu le Covid-19, justement. Ça me fait du bien. Hein.
Oui. Voilà. Vous avez été très malade?
Oui, je l'ai eu. J'ai mon ami qui est décédé du Covid-19 qui me l'a passé et je l'ai soigné jusqu'à la fin. Voilà.
Oh là là. Ouais, c'est,
voilà, c'est pour ça
c'est...
que...
Ouais. Vous aviez besoin, oui, de vous changer les idées et le film, vous l'aviez déjà vu?
Je l'avais vu, mais je me rappelais plus. Ça fait tellement longtemps que. C'était vraiment hilarant.
Oui, vous avez ri, vous avez éclaté de rire. Ça fait du bien. Voilà.
Olivier Loret, c'est un pignon vraiment inoubliable.
Hein. Ouais, absolument. Ouais, formidable. Et c'est vrai que, comme beaucoup de gens, vous avez regardé le dîner de combat. On vous souhaite bon courage, Eliane, et de bien faire attention à vous. Et j'imagine que c'est ce que vous faites, évidemment, même si le déconfinement est amorcé, il faut toujours rester prudent. Merci, Eliane, de votre appel. Mireille, qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour, Mireille.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour à vous deux. Très bien, je vous remercie. Merci.
Bien.
Bonjour Gilles et Valérie, merci de me prendre avec vous quelques instants. Moi j'ai choisi l'émission
Envoyé spécial.
Envoyé spécial parce que concerné familialement. Alors bien que assez peu exploitable, j'ai quand même dégagé trois axes de remarques. Tout d'abord de manière globale, c'est une émission extrêmement anxiogène. Très anxiogène, et même la musique est anxiogène. Séquences tournées dans l'établissement hospitalier le montrent. Alors, le choix des enfants, un enfant jeune qui a déjà un terrain pulmonaire a été choisi, donc inévitablement il a été contaminé, il a été malade, hospitalisé. Le deuxième cas, c'est un adolescent, excusez-moi, dont on ne connaît pas l'histoire, qui aurait été en réanimation, malade depuis plusieurs semaines. Mais enfin, sans connaître le dossier, c'est plutôt anxiogène qu'autre chose.
Et enfin, donc ça vous a pas plu,
troisième...
en fait.
Ah non, pas du tout. Je termine. Et la maladie de Kawasaki reste un événement marginal à ce jour dans l'épidémie. Marginal. Donc là, c'est présenté comme « mettez vos enfants à l'école, ils vont attraper la maladie de Kawasaki ». Donc ça, c'était sur l'aspect général anxiogène. Deuxièmement, ont été complètement éludés deux points très importants pour la population. D'abord, les protocoles très lourds en réalité à la rentrée scolaire dans les établissements pour les enseignants. Ça a été minimisé. On passe à droite, on passe à gauche, enfin très très simple. Rien du tout, en fait. Et l'école à la maison. L'école à la maison, c'est terrible. Tous les parents sont épuisés. Enfin, les parents qui s'impliquent dans la pédagogie auprès de leurs enfants. Et ça a été seulement évoqué par un père qui avait des enfants très jeunes, les parents qui ont des adolescents qui font les devoirs à la maison entre d'un côté le Coca-Cola et de l'autre côté la copine sur le canapé, excusez-moi, ça doit être quelque chose de terrible. Et là, on a une famille sereine, tout se passait bien. Dans la réalité, n'est pas celle-là.
Et je te réalité, effectivement, la réalité n'est pas la même effectivement pour tout le monde. Le choix, effectivement, de, quand on fait un reportage, que ce soit pour Envoyé spécial ou une autre émission de reportage, c'est de faire des choix, des angles sur les gens. Et souvent, c'est un côté un peu intimiste. Donc, ça n'a pas valeur d'exemple, mais de montrer un aspect des choses. Merci en tout cas de votre appel, Mireille. Quatrième position pour Envoyé spécial, 1 626 000 téléspectateurs. C'est pas un très bon score, 6,8% de part d'audience. C'est assez moyen. Quotidien a plutôt bien fonctionné, 2 085 000 téléspectateurs. Et puis, c'est que du kiff, 734 000 personnes. Visiblement, il a atteint un plafond avec cette nouvelle émission, Cyril Hanouna.
Hier, il a ressorti à Fida Turner. Ah oui. Une troisième fois, et finalement, apparemment, le buzz n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné.
Oui, Fida Turner qui, effectivement, sur les réseaux sociaux, fait bien réagir, mais ça n'a pas été un franc succès. Gilles, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Ça y est, Valérie, on peut aller sur le site SNCF et réserver ses voyages pour les vacances d'été depuis ce matin, 8h. Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyages, a expliqué toutes les conditions pour les usagers.
Vous pouvez réserver tous vos billets de train pour pouvoir partir en vacances en juillet et en août. Si un épisode Covid-19 venait à réarriver, tous nos billets seront échangeables et remboursables gratuitement. Et nous avons justement mis en place un PC voyageur où nous sommes aujourd'hui pour pouvoir surveiller l'affluence en temps réel et pouvoir agir si l'affluence est trop importante pour pouvoir, par exemple, tout simplement modifier des flux.
Alors moi, j'ai fait un petit test ce matin pour faire un voyage à Biarritz. Tout était saturé, il n'y avait aucun train de disponible. Je pense que les gens se sont vraiment jetés sur le site.
Ce qu'on a entendu ce matin dans le Grand Matin Sud Radio, effectivement, beaucoup de gens qui se sont précipités pour réserver dans les campings, etc.
J'irai à Biarritz en voiture, que voulez-vous.
Voilà. En trottinette, peut-être.
Oui, bien sûr. Emmanuel Macron a annoncé un hommage le 14 juillet au personnel soignant, mais voilà, celui-ci n'est pas convaincu. C'était dans Quotidien.
Qu'ils fassent leur boulot, ces députés. Et aujourd'hui, ils peuvent voter une loi qui nous octroie une augmentation de salaire qu'on réclame depuis un an de 300 euros par mois, en attendant qu'on renégocie nos grilles de salaire. 300 euros par mois, et pas une prime en une seule fois, puis après, démerdez-vous. On ne veut pas de la charité et de médailles. Nous dire, c'est pour solde de tout compte, et soyez contents. On vous a applaudi, on vous donne une médaille. C'est se foutre de nous.
Un milieu médical qui a dû payer un lourd tribut avec des décès des médecins et des infirmiers qui n'étaient que juste là pour venir sauver des gens. Pour Patrick Bouet, le président du Conseil de l'Ordre des médecins, il ne faudra pas les oublier.
Je ne comprendrai pas que quelque part ne soit pas inscrit à l'image de la nation ceux et celles qui ont sacrifié leur vie, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient agents hospitaliers. Ce sont des hommes et des femmes qui ont répondu présent. Il faut donc leur rendre hommage en reconnaissant leur nom et la raison pour laquelle ils sont morts.
Hier, Mediapart a commencé à diffuser des preuves, vous savez, après l'annonce de Laetitia Avia d'attaquer le journal qui l'accuse de racisme et d'homophobie. Ils ont mis en ligne un appel téléphonique où elle fait allusion au responsable asiatique de l'informatique.
Étant vraiment, malgré ses origines, pas le meilleur sur les sujets informatiques, je vais transférer ces sujets-là à maintenant, et c'est vraiment une de tes priorités de la rentrée, c'est ma e-réputation.
Voilà, on n'entendait pas, le son était un peu saturé, mais à la manière de Mediapart, c'est-à-dire qu'ils sortent les informations et après ils apportent les preuves. Et effectivement, elle parle d'un collaborateur d'origine asiatique chinoise et elle s'étonne qu'il ne soit pas doué en informatique. Effectivement, ça s'appelle du racisme.
Hier dans C'est à vous, Samuel Peter Schmidt, c'est le responsable de l'église évangéliste de Mulhouse, vous savez, d'où est parti un foyer épidémique. Eh bien, il raconte comment désormais il reçoit de nombreuses menace, c'était dans Quotidien.
J'ai été très malade. Il y avait toute cette pression. En même temps, j'avais des amis qui mouraient dans le même hôpital où je me trouvais. Cela reste aujourd'hui encore un fardeau. Moi, je reçois les menaces ici, hein, en tant que responsable de l'Église, comme quoi on allait nous descendre à la Kalachnikov, comme quoi nous ne devrions pas exister, qu'il faudrait nous éliminer. Bref.
Vous savez que le Conseil d'État a retoqué le rassemblement limité à 10 personnes. Résultat, alors Karine Roëllon, vous allez voir, c'est une habitante d'Angers, eh ben, elle s'en est réjouie. Du coup, samedi, elle fait une grande fête pour son anniversaire.
Incroyable. Du coup, pour cette angevine, la fête d'anniversaire prévue pour ses 40 ans se fera bien.
On attendait avec impatience de pouvoir se retrouver, puisque effectivement nous serons 20 présents lors de ce rassemblement. On a la chance d'être dans un gîte où voilà, il y a plusieurs étages, mais on va pas se rester confinés chacun dans nos étages. Non, on va se retrouver. Après, je pense qu'on sera, on va respecter cette distanciation physique.
Bon, elle continuera peut-être son anniversaire à l'hôpital. Ouais. Oui, Valérie.
Non. Effectivement, il y a vraiment des. On en reparlera nous aussi à 11h. C'est-à-dire, il y a quelques jours, c'était on craint un reconfinement, et puis hier, c'était allez, tout le monde part en vacances. On comprend pas forcément. Incroyable. Interdiction de se réunir à plus de 10 et pas dans les espaces privés. C'est pas très cohérent, mais bon. Je vous
Avec
écoute.
Le confinement, on pénètre dans l'une des maisons et l'univers des personnalités. Hier, dans Qui veut gagner des millions, Camille Combal s'est moquée des tableaux avec des bateaux de son invitée Claudia Tagbo.
On est sur un petit déco marine ?
Exactement, c'est ça, tout à fait. Je suis dans un bureau, dans le seul lieu où Internet passe. Ah. Donc, commencez pas à tailler parce que je me taille, ok ?
C'est Olivier de Kersauzon, votre décorateur ? C'est très joli, hein ? C'est joli, hein, Claudia. Bon, je suis content, et vraiment. En plus, je sens que vous êtes partie pour aller haut ce soir avec des lunettes pareilles. Si on ne fait pas au moins 100 000 euros.
J'ai tout mis. Là, j'ai tout mis. Comme ça, déjà, je me dis, les gens se disent, elle a fait un effort. Après, elle n'a pas gagné, mais elle a fait un effort. Je pars déjà bien. Voilà.
Allez. Bonjour, Éric-Antoine.
Bonjour, Valérie, comment ça va?
Mais bien, et vous, est-ce que vous avez des bateaux? C'est dommage qu'on vous ait pas en vidéo. Est-ce que ce soir on va voir, est-ce que lundi soir on va voir votre intérieur coquet?
Oui, on va en voir une partie. Mais d'ailleurs, j'ai enregistré avec Camille aussi, qui veut gagner des millions là, il y a deux jours. Et moi, j'ai commencé dans ma baignoire parce que je trouve que c'est pas possible que ces gens aient des librairies, des bibliothèques derrière eux.
Des bibliothèques incroyables.
Des bibliothèques. Alors, j'ai une bibliothèque incroyable, donc je me suis foutu de la tronche de tous les copains qui ont une bibliothèque incroyable, et après je me suis mis devant ma bibliothèque incroyable.
Vous avez commencé dans la baignoire, donc ça on va le voir dans...
Mais j'ai commencé dans la baignoire, je sais pas quand... Ouais.
Dites-moi. Vous savez pas quand est-ce que ce sera diffusé, certainement
dans les jours qui viennent, oui.
Voilà,
mais on n'est pas là pour cette émission, on est là pour...
Non, M6, on est là pour incroyable pour talent, M6, bravo, M6, absolument, voilà. Les 25 moments inoubliables, et donc on va vous voir effectivement, on va vous retrouver de façon virtuelle avec Marianne James, Hélène Segarra et David Ginola pour cette spéciale « La France a un incroyable talent ». Peut-être avant de parler de l'émission, donc qui sera diffusée sur M6 à 21h lundi, ce confinement, vous l'avez vécu dans votre baignoire comment vous l'avez vécu?
Alors, je l'ai vécu comme un homme de spectacle qui n'a pas le droit de faire du spectacle et qui ne sait pas quand il refera du spectacle, et donc aussi responsable de tout un tas d'équipes, d'intermittents, aussi bien mes collègues techniciens au plateau qu'administrateurs, etc. Donc avec l'inquiétude absolue de que va devenir ce métier, mais je l'ai vécu aussi parce que avec beaucoup de... plus de chance sans doute que d'autres, parce qu'un jardin, parce que mes enfants, parce que maintenant je suis là, je suis à la maison, je peux m'occuper de tous les jours, on fait des devoirs, on s'amuse, on fait des vidéos ensemble. Donc ça, c'est la partie quand même absolument magnifique de ce repos obligatoire, en fait. Donc,
vous savez que je me suis mis à la magie grâce à vous. Vous savez que sur YouTube, il y a une chaîne avec de la magie confinée avec ses enfants. On voit une petite main de temps en temps apparaître. Et donc, j'ai appris quelques tours. C'est super bien fait.
C'est sur votre chaîne YouTube, hein, c'est ça?
Oui, sur ma chaîne YouTube. Alors, et en plus, la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé que tous les bénéfices de la chaîne iraient à l'association Magie et l'Hôpital. Donc, en plus, quand vous venez apprendre la magie, vous amusez, c'est gratos. Et en plus, vous faites du bien à l'association. Donc, voyez,
j'ai regretté simplement que vous ne donniez pas le truc pour couper sa femme en deux. Je pense que durant le confinement, ça aurait servi à certaines personnes.
J'ai des copains. J'ai des copains qui font ça pour 500 balles. C'est définitif. Mais c'est fini, quoi. Voilà, vous me dites.
C'est une autre forme de magie. Alors, dites-nous ce qu'on va voir. C'est assez formidable ce que M6 va proposer lundi. Ces incroyables talents. Ouais.
Ouais. Alors, l'idée, c'est, on a fait plusieurs émissions autour d'Incroyable Talent qui, quand même, je trouve, qui reste une des plus belles émissions de télé de France parce que elle est basée
sur
des valeurs de partage.
On peut le dire,
elle est dans le monde entier et elle fonctionne dans le monde entier, mais c'est vrai, elle est basée sur des valeurs on vient de tous les lieux, de toutes les couleurs, de toutes les pensées, on se rejoint ici, toutes les formes d'entraînement, tout ça, de création, et on est là tous ensemble. Et là, cette fois-ci, on a fait une émission un peu spéciale confinement, qui est nos 25 moments préférés, et on est tous chez nous, Marianne, Hélène, David, sa chérie, Maëva et ma tronche, et on s'amuse à revivre ce moment avec vous, et donc à les commenter, à donner les secrets derrière les coulisses, à parler un petit peu de manière un peu plus libre que parfois en tournage. Enfin, remarquez, on est plutôt libre en tournage, mais disons que là, on donne des choses qu'on ne voit pas en tournage. Voilà.
Un des moments les plus forts, c'est votre rencontre avec Valentin, ce comédien comique, je crois que c'est la chose qui vous a touché le plus, non ?
Ah ben Valentin Reiner, c'est vraiment un type formidable. D'ailleurs, pendant le confinement, il a fait beaucoup aussi de vidéos sur les réseaux. J'ai très hâte de voir son spectacle en entier, de continuer à l'accompagner. L'émission, il est arrivé deuxième, donc la saison dernière. Et il est passé à ça de la première. C'est Capucine, la ventriloque, qui d'ailleurs a gagné l'émission, que j'aime aussi énormément, pour tout vous dire, et que j'aime tellement qu'on a décidé, j'ai décidé de la produire. Quand les spectacles reprendront, je serai ravi de faire venir les deux en première partie, de les accompagner. Mais c'est vrai que Valentin, il y a un humour, en fait, qui est très fort dans la présentation de Valentin. C'est même avant son sketch, au moment où je lui pose des questions, où je l'interviewe, il est déjà extrêmement drôle. Et ça, c'est un signe, quoi. Quand quelqu'un est drôle en interview et après, derrière, est capable de t'enchaîner un très bon numéro, là, t'as quelqu'un avec une âme intéressante.
Et est-ce que vous êtes resté en contact pendant tout le confinement avec Hélène Ségara, avec Marianne James?
Oui, comme avec tous les amis, au même niveau que, disons que j'ai quand même une vie qui a été très studieuse pendant le confinement, pour tout vous dire, parce que j'ai deux sociétés et un théâtre. Donc j'ai trois boîtes, donc il fallait gérer tous les collaborateurs, il fallait gérer énormément de choses, évidemment. Et puis en plus, je co-écris le spectacle de Capucine, j'écris mon spectacle avec Jérémy Ferrari, je gère aussi les enfants, l'école, etc. Donc moi, je vais vous dire, j'ai hâte des vacances parce que j'ai pas chômé pendant ce confinement. Voilà.
Et sur les mesures.
Donc Marianne et Hélène ont été dans des coups de fil, en effet, de copines.
De copines pour savoir si elles allaient bien. La reprise pour les artistes, pour les théâtres, on ne sait pas quand elle aura lieu.
Aucune idée, non.
C'est quelque chose qui est évidemment extrêmement inquiétant pour tous les artistes, les intermittents, tous ces gens. Qu'est-ce que vous avez pensé des mesures proposées par Emmanuel Macron?
Pour le moment, déjà, on était content que la semaine dernière, ça commence un petit peu à bouger et qu'il y ait cette année blanche qui était offerte pour les intermittents. Moi, je ne suis pas intermittent, je suis gérant de société de spectacle. Je n'ai rien de rien. Pour mes sociétés, rien de rien. Heureusement, il y a le chômage partiel pour mes CDI. Mais pour tous les indépendants que j'accompagne, je suis obligé de payer leur salaire à plein pot parce que je ne peux pas les laisser tomber. Et évidemment, et pour le moment, il n'y a aucune aide de ce côté-là. Et sur toute la partie exploitation de spectacles, qui sont des investissements très importants et des attentes très importantes, aussi bien pour les intermittents que pour les producteurs, pour le moment, il n'y a rien. Donc on va vraiment vers une catastrophe pour les plus précaires, qui sont toujours, bien sûr, ceux qui sont le plus en danger, en premier, et vers quelque chose qui peut être aussi catastrophique pour des sociétés un peu plus solides comme la mienne, voire très solides comme des très grosses sociétés de spectacle ou des très gros théâtres. Donc pour le moment, on est tous très inquiets, on est dans l'expectative. Le pire n'est pas certain, donc on travaille pour le meilleur, on travaille pour construire des spectacles, on travaille en espérant qu'à partir de septembre, tout se rouvre et de proposer au public les meilleurs shows possibles, les meilleurs spectacles, et de travailler. Mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et donc, ouais. C'est complexe. Ouais, c'est complexe.
Ouais. Et donc, vous n'avez pas de baguette magique pour faire disparaître le Covid.
Ah, si seulement, Gilles. Si j'étais un vrai magicien, mais moi, je ne suis qu'un escroc, vous savez. Je suis qu'un illusionniste.
Un illusionniste, ouais. Absolument. Donc, on va voir beaucoup, beaucoup, évidemment, des numéros qui ont marqué...
Oui. Valérie,
Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste Guégan,
oui, absolument. Bien sûr.
Qui a fait une carrière incroyable, hein.
Ah ben, qui a complètement changé sa vie, c'est-à-dire que ouais. c'est aussi un destin, ça, qui est assez magique. Absolument. Pour le coup, parce que le type est fan absolu de Johnny. En plus, il y a beaucoup de points communs dans sa vie, de ouais, difficultés ouais. aussi de l'enfance, de l'adolescence, de pensée, de même, je dirais, d'une certaine forme de violence. Et puis, le moment où l'homme dont il est fan absolu disparaît, ben, ça le met en lumière. C'est-à-dire que ouais. il y a une espèce, et puis en plus, il y a quand même une continuité aussi, je trouve, entre les
Absolument.
Deux. Je trouve ça a été très décrié, par une partie de la famille et tout. Et puis maintenant, tout le monde se rend compte de la sincérité du mec, de sa probité, de son envie de bien faire. Et puis en plus de ses chansons qui sont aussi de très bonne qualité avec une partie d'équipe de Johnny, bien sûr, qui est derrière et qui continue de travailler avec lui. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, en fait, dans l'histoire de Jean-Baptiste et le succès est vraiment mérité. Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prochaine saison? Il y a un casting qui est en cours?
Oui, le casting est en cours. Pour le moment, on avance vraiment bien. Il y a même une demande, je dirais, un niveau artistique qui est plutôt très fort parce que les artistes ont besoin d'exister, évidemment.
Bien
et
sûr.
Donc, Incroyable Talent, ça reste une des dernières émissions, voire la dernière émission où toute une population artistique qui n'existe pas ailleurs à la télévision peut exister là. Donc, il y a une demande et un casting très fort. Maintenant, on a la même inquiétude parce qu'on veut accueillir aussi des artistes étrangers. On va accueillir des artistes toujours dans la francophonie, les Québécois, des gens, des hommes, etc. Donc là, pour le moment, les vols ne sont pas permis. On est aussi en inquiétude par rapport à ça. On est inquiétude comment on fait venir le public. Enfin, il y a beaucoup de gestions comme ça qui sont un peu complexes, mais on avance en étant optimiste, en y croyant. Voilà.
Bon. Gilles?
Oui, non, c'était pour vous dire qu'on peut, on peut s'inscrire en allant sur les différents sites d'Incroyable Talent. Et vraiment, les candidatures sont ouvertes. Donc, si vous avez un incroyable talent, bon, je vais peut-être aller faire un peu de magie, du coup.
Voilà, allez-y. Oui, parce que je pense que... Donc, on rappelle votre chaîne YouTube, c'est bien, parce qu'en plus, c'est accessible à tout le monde pour donc, la chaîne YouTube d'Éric Antoine. On vous retrouve lundi, donc 18 mai, sur M6 Incroyable Talent avec les 25 moments inoubliables. Et puis votre, et ben voilà, et vous serez tous depuis chez vous, donc on va essayer en visio, et on verra d'où vous allez démarrer, parce que je pense que vous ne serez pas devant votre bibliothèque peut-être lundi. Merci beaucoup Éric Antoine, et puis il y a Mickaël qui nous dit que c'était l'anniversaire de Jean-Baptiste Guégan hier. Ben, on lui souhaite un bon anniversaire. Allez, on se retrouve nous dans quelques instants avec Rémi Pernelet pour les dernières infos du PAF. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Rémi Pernelet, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Ah voilà. Alors vous n'êtes pas dans votre baignoire comme Éric Antoine. Vous êtes devant votre bibliothèque.
Oui,
voilà. Alors, pas mal de choses, évidemment, comme chaque semaine, il se passe plein de choses dans le paysage audiovisuel. On va commencer peut-être par, justement, la télévision qui a été au cœur du confinement.
Ben oui, c'est ça. Il y a Médiamétrie qui a fait une étude sur les usages audiovisuels pendant les deux mois de confinement et qui explique que la télé est devenue la star du foyer. Les Français ont passé en moyenne 5h50 par jour devant la télé. Il y a bien sûr les enfants qui ont suivi la Maison Lumni, les adultes, les chaînes d'infos et les ados aussi. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeune public et les CSP+, qui avaient plutôt tendance à déserter les chaînes de télé, ont redécouvert le petit écran. Par exemple, chez les 15-24 ans, la durée d'écoute a bondi de 65%. Et sur les CSP+, de 56%, en deux mois, vous voyez, 60 programmes télé ont rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs. C'est deux fois plus que l'année dernière. Je dirais aussi, au total, la télévision a passionné 82,3% des Français chaque jour. C'est pratiquement le double, 10 points, pardon, de plus qu'en temps ordinaire. Et puis quand même... Ouais. Évidemment, il y a aussi les plateformes. L'étude aussi a noté que 30 programmes ont rassemblé plus d'un million de téléspectateurs sur les plateformes. Un tiers des Français ont utilisé chaque semaine une plateforme comme Netflix, MyCanal, Amazon Prime Video, ou alors Disney Plus qui vient d'arriver.
Mais je note que...
Ouais, qui marche très bien. Je note quand même que Médiamétrie a donc fait cette très belle étude pour la télévision, mais qu'ils n'ont quand même pas été capables de mesurer les audiences radio pendant le confinement. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'était à signaler.
Comment ça, ils n'ont pas été capables?
Ben non, comme c'est un, les audiences radio sont mesurées. On appelle les gens, ils ont arrêté d'appeler les gens avec leur call center parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas des conditions de sécurité nécessaires pour le call center.
Donc même du call center, ça pouvait être du télétravail.
Ouais. Ouais, mais je sais, mais si vous voulez, c'est pas la première fois que l'on proteste contre la façon dont Médiamétrie mesure les radios. Et ben là, peut-être qu'ils vont être obligés de remettre en cause leur façon de mesurer.
Oui, pourquoi l'un et pas l'autre? Pourquoi l'un et pas l'autre?
C'est pas la même chose. La télé, c'est des boîtiers qui sont installés à demeure chez les gens, il n'y a pas d'intervention humaine, ce ne sont que des machines qui recueillent.
Absolument.
Vous êtes en train de dire qu'on n'aura pas les chiffres des radios durant le confinement?
Alors, en tout cas, pas pendant le début du confinement. Je pense qu'en 2 mois, ils ont peut-être réussi quand même à mettre en point quelque chose d'autre et qu'ils vont démarrer sans doute au moins, je pense, courant avril ou courant mai, on aura des mesures. Mais c'était à signaler que, malgré tout, c'est pas normal, je continue à le penser, que les radios aient purement et simplement été pas mesurées du tout pendant une grande période.
Ouais. Reprise des tournages pour plusieurs séries, Ainsi Grand Soleil, Demain nous appartient.
Absolument, il y a aussi les mystères de l'amour.
Oui, les mystères de l'amour.
Vous avez reçu Jean-Luc Azoulay. On a vu des images du tournage. Oui. Tous les techniciens sont avec des masques. Et alors, il réécrit Jean-Luc Azoulay en direct pratiquement les dialogues quand il estime que les gens sont un peu trop près, hop, pour qu'ils s'éloignent. C'est pas le seul, puisque donc Ainsi Grand Soleil va revenir alors carrément à l'antenne dès le 1er juin. La date de reprise de tournage n'a pas encore été décidée, mais ils avaient une vingtaine d'épisodes inédits en stock, donc on sait qu'ils vont recommencer les tournages maintenant, et Takis Candilis a décidé que la diffusion allait reprendre le 1er juin. Demain nous appartient.
Et donc, ça nous donne une indication, Rémi. Ça veut dire qu'à partir du 1er juin, le JT de 20h de France 2 retrouvera son horaire habituel et sa durée habituelle, forcément.
Oui, bien sûr, absolument, tout à fait.
Ça veut dire que fini le JT d'une heure dans moins de 15 jours.
C'est ça, sauf évidemment événement exceptionnel, hein, mais d'ailleurs, ça paraît assez logique, hein, je pense que le formatage de ces JT était lié à la situation très exceptionnelle, et donc voilà, ils espèrent sans doute pouvoir recaser leur feuilleton. Les TF1 également va reprendre les tournages, le feuilleton devrait reprendre lundi prochain, dès le 18 mai, après 2 mois d'interruption, Demain nous appartient. En fait, ça va être le premier des feuilletons quotidiens qui va recommencer à tourner. Viviane Godefroy avait expliqué qu'elle espérait pouvoir recommencer aussi Plus belle la vie. Et donc...
Apparemment, ça reprend. Hein.
Apparemment, ça reprend également, tout à fait. Mais ils ont été obligés de réécrire beaucoup de choses.
Parce qu'il y a l'histoire de l'hôpital, de l'infection, c'est ça, du virus?
Exactement, et donc ils vont intégrer... D'abord, il y a des scènes qui ne pouvaient pas être tournées telles quelles parce que les mesures sanitaires n'étaient pas respectées. Et puis ensuite, ils vont tenter, évidemment, tous d'intégrer des éléments de notre nouvelle actualité quotidienne.
Alors, un expert me signale en médiamétrie que la mesure a repris le 4 mai. Pour les radios, voilà.
4 mai, ça fait pas très longtemps, vous voyez, ça fait 10
jours. Non, ça fait pas très longtemps, ça fait 10 jours, donc je ne sais pas,
c'est quand même, donc on aura 2 mois blancs.
C'est dommage, on avait été très bons en avril avec Valérie.
Absolument, on aurait explosé les scores. Donc les tournages des séries reprennent, donc on pourra imaginer d'avoir du frais entre guillemets. Il y aura aussi le retour de Télématin.
Télématin, vous voyez, on pensait même que... Moi, j'étais presque surpris parce que je me demandais s'ils n'allaient pas garder ad vitam aeternam cette formule du journal diffusé en double. Alors, je pense qu'il y a un problème juridique. Le CSA aurait pu s'y opposer puisque le CSA a refusé ce genre de pratique aussi bien au groupe TF1 qu'au groupe RMC.
TF1 voulait diffuser la matinale de LCI, c'est ça ?
Exactement. Donc, ils ont pris les devants et ils sont bien obligés de remettre Télématin qui va donc revenir le 25 mai.
Une telle bonne ambiance dans l'équipe, ils doivent être tous contents de se retrouver.
Oui, bon, écoutez, c'est perfide parce que peut-être qu'avec les événements exceptionnels, on remet un peu tout à plat, vous voyez.
Une nouvelle solidarité.
Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que les audiences de cette formule France Info TV France 2, eh bien, ça marchait pas si mal. C'était 800 000 téléspectateurs.
Ah oui?
En moyenne, si on regarde Télématin, Télématin était à 835, 840, 850 000 téléspectateurs. Donc en fait, il faisait pratiquement la même audience. Bon, ça fait rien, on va quand même retrouver Télématin et on souhaite quand même un bon retour.
Koh-Lanta, vous aviez des informations à nous donner.
Ah, c'est honteux.
Ah oui, Koh-Lanta.
C'est un scandale.
Ah bon, pourquoi c'est un scandale?
Pourquoi?
Bah, parce que de couper des épisodes comme ça.
Ben oui, mais enfin, si vous voulez, l'idée c'est d'essayer de tenir jusqu'à la finale.
Oui, mais ce qui fonctionne, c'est l'épreuve, une épreuve, et puis ensuite le jury, l'épreuve d'immunité qui suit. Il y a une dramaturgie quand même dans l'histoire.
Bah, je vous signale que ça n'a jamais aussi bien marché qu'en ce moment. Les audiences cartonnent, c'est les records absolus de Koh-Lanta depuis 4 ou 5 ans. Donc là, déjà, dès ce soir, effectivement, il n'y aura pas d'élimination, vous avez raison, ce soir. Donc c'est, on devait connaître le nom des trois qui se retrouveraient en épreuve, en course d'orientation. Bah non, ça va être coupé en deux, il y a l'épreuve de confort ce soir. Vendredi prochain, l'épreuve, effectivement, d'immunité et les éliminations. Ensuite, on aura la course d'orientation. D'habitude, c'était suivi immédiatement par l'épreuve des poteaux. Bah là, non, ce sera coupé. On aura ensuite seulement les poteaux pour se retrouver avec une finale qui sera le 5 juin. Alors, la finale, vous savez que normalement, c'est un direct avec tous les candidats présents et même
public. Les familles.
Donc déjà, on sait qu'il n'y aura pas de public, mais on ne sait même pas s'il y aura les candidats parce que peut-être qu'ils prendront seulement les candidats du jury final, donc qui sont une dizaine. Ils n'ont pas la vingtaine de candidats au total. Et puis peut-être même que ce sera de la visioconférence. Tout dépend un peu de l'évolution de la situation sanitaire, hein, j'allais dire.
Ouais, donc c'est effectivement, je pense que pour les amateurs de Koh-Lanta, ça risque d'être bouleversé un petit peu le programme.
Bah, ouais, moi, je vais les enregistrer, je les regarderai après.
Vous savez, c'est comme la série Why Women Kill, il passe un seul épisode, mais ça cartonne quand même. C'est frustrant, mais ça cartonne. Koh-Lanta, c'est frustrant, mais ça cartonne.
Effectivement. France 2 a décidé de proposer une émission pour la fête de la musique. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu survivre à ça. À chaque fois, c'est un gadin chaque année. Très perfide ce matin. Donc, une émission.
La grande différence, Valérie, c'est que au lieu de se faire un gadin en public, ce sera un gadin sans public.
Voilà.
Ça devait tourner à Nice avec 20 000
personnes. On est très gentils tous les trois aujourd'hui.
Non, mais là, c'est vrai que la fête de la musique, c'est pas la plus belle audience de la télé.
Non,
pas du tout. Non. Donc là, ce sera tourné normalement à l'Accor Hôtel Arena de Paris. Il y aura une trentaine d'artistes qui devraient être attendus sur scène. Ils se succéderont et ce sera un peu une soirée qui est, d'après ce que dit Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements de France Télévisions, un soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment et les festivals qui seront annulés cet été. Donc voilà, ça c'est peut-être une façon d'essayer d'avoir un peu plus d'audience, je ne sais pas.
Ou un soutien aux récolteurs d'asperges, je ne vois pas bien effectivement. Ça va être présenté par Laurie Tillman et Garou. C'est ça,
c'est
normalement.
Sûr,
non, c'était l'année dernière. L'année dernière, c'était eux.
Et là, on ne sait pas qui va présenter. Est-ce que ce seront à nouveau, c'est possible, ou est-ce qu'ils vont mettre plusieurs animateurs qui succèdent?
Mais je ne comprends pas la logique de faire ça dans une salle aussi grande que la Accor Hôtel Arena vide.
Oui, mais alors en même temps, ils veulent peut-être quand même une certaine qualité de son. Donc,
Puis c'était compliqué de faire un extérieur, mais peut-être dans un studio télé normal, c'est ça, Valérie?
Non, ou dans une salle plus petite.
Ça donne pas peut-être une impression de fête de la musique. Quoi. C'est pas le
d'accord,
problème.
Oui, c'est ça. C'est le côté,
on met un gros orchestre.
Le côté festif, d'accord. Donc on
ne sait
même pas
si on pourra sortir pour aller jouer de la flûte le 21 juin.
Absolument, oui. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. N'oubliez pas les paroles déconfinées. Alors, petit point.
Oui, parce que vous avez vu depuis deux jours, n'oubliez pas les paroles, est revenu. Quand même un public, mais sauf qu'un public, ce sont des mannequins.
Des mannequins et des gonflables, non, de ce que j'ai vu,
oui,
c'est des ballons.
Des mannequins gonflables. Alors, il y a aussi des danseurs, il y a aussi les musiciens. Et donc, en fait, moi, finalement, je trouve que l'impression, elle n'est pas si mauvaise.
Ces poupées gonflables.
Ben peut-être, Gilles, mais voyez, ça fait une meilleure audience que la semaine dernière et même que l'année dernière, à la même époque. 500 000 téléspectateurs de plus. Et en fait, c'est ridicule parce que, bah parce que voilà, le côté poupée gonflable paraît bizarre, vous voyez, mais en même temps, moi je trouve que ça fonctionne pas si mal et d'ailleurs, bah voilà, l'audience est là, hein, l'audience le prouve. Bah, hein.
Moi je préfère la version de Jean-Luc Reichmann qui est vraiment super avec les familles et des écrans. Derrière, vous avez les familles qui supportent chaque candidat, c'est super bien fait.
Bah là, vous avez des écrans aussi, hein, chez Naki. Ouais, ouais.
Oui, c'est vrai, vous avez des personnages en vidéo, mais je trouve que Jean-Luc Reichmann, le déconfiné, enfin, ça fonctionne très très bien quand même, l'émission. Ça a même rajouté des choses, je trouve.
Ben, ça marche bien, et d'ailleurs, Jean-Luc Reichmann, j'en profite pour donner cette information que le magazine Capital a sorti là, vient de vendre sa société de production à Andemol, ben, quand même un peu plus de 10 millions d'euros, donc ben, voilà, un bon petit chèque en période de déconfinement. C'est une très belle opération.
10 millions d'euros, c'est...
Oui, d'autant que 10 millions d'euros, mais il va continuer à rester producteur exécutif et animateur, donc...
Avec un salaire.
Avec un salaire, absolument. Et c'est vrai que ces émissions marchent très bien en même temps. Donc,
oui, c'est un énorme chiffre.
Oui, et puis qui produit, il produit aussi des fictions, non?
Oui, bien sûr, la firme ATI. Mais pour la petite histoire, Jean-Luc Reichmann, en fait, la société Banijay avait voulu racheter la société que Jean-Luc Reichmann, il avait refusé, il l'avait vendue à Andemol. Il voulait la vendre à Andemol. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis octobre dernier, bah, Banijay rachète Andemol. Donc, finalement, ça revient strictement au même. Mais pour Jean-Luc Reichmann, ce qui ne change pas, c'est qu'il a un chèque.
Écoutez. Voilà. Merci beaucoup Rémi, merci Gilles. On se retrouve lundi et puis nous tout de suite. On aura Élise Lucie pour un nouveau Cache Investigation, absolument. Bon week-end à tous les deux. C'est avec Gérard Collard. C'est l'émotion de retrouver Gérard Collard dans un instant pour nous conseiller de très bons livres. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous avons l'immense plaisir de retrouver Gérard Collard. Bonjour Gérard.
Vous êtes victime de Gérard Collard, hein, vous bafouillez.
Voilà, j'ai bafouillé, c'était l'émotion une semaine sans vous Gérard, ça me pèse.
Respirez fort.
Je respire, voilà. Bon, vous êtes débordé, merci de prendre quelques minutes de votre précieux temps pour racontez-nous racontez-nous comment ça s'est passé dans votre librairie. Vous avez donc ouvert lundi. Est-ce que vos clients étaient au rendez-vous? Est-ce qu'ils sont venus nombreux? Comment ça s'est passé?
Ça a été la folie. Donc, on a respecté tout ce qu'il fallait respecter, d'essayer de pas qu'ils se croisent, le gel, les masques, enfin tout. Mais alors, ce qui était assez extraordinaire, c'est.
On vous entend plus.
Elle était là, c'était. Allô, vous m'entendez?
Oui, on vous entend mal, oui. Faut que vous changiez.
Là, vous m'entendez mieux?
Oui, oui.
Donc c'était la notion de manque des gens, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment heureux. S'ils avaient pu nous embrasser, ils nous auraient embrassés. On sentait que
il y avait une vraie joie à revenir.
Oui, c'était vraiment un grand plaisir. Et puis ça marche très bien. Et puis ils ont redécouvert, comme je crois pour de nombreux libraires, les sites de vente par correspondance. Donc on est c'est super sympa parce que ça va nous aider pour l'avenir. On est bousculé par le nombre de commandes, on fait ce qu'on peut, ça marche relativement bien, les éditeurs font quand même des efforts, donc ça s'améliore quand même nettement plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est comme pour les aides-soignants, vous savez, on fait des applaudissements, on leur dit qu'ils sont formidables, mais il faut pas que ça s'arrête maintenant, c'est comme pour les aides-soignants, il faut que ça continue, donc voilà. Donc non, mais c'est une période très chaleureuse.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont acheté, de quoi ils avaient envie, il y a une tendance ou pas?
Ben non, en fait ils sont tenus à nos prescriptions,
à nos conseils, vous êtes une sorte de gourou en fait, on écoute vos conseils.
Alors, je voulais vous le dire, j'ai pas eu le temps de vous envoyer un poste, mais le truc que vous avez fait sur Jackie Ellie Kennedy, ça a été mais une traînée de poudre dès le lendemain. Et là ils ont redécouvert la radio, ils ont redécouvert les conseils télé, ils ont redécouvert les pages Facebook, et en fait ce qu'on a vendu, c'est ce qu'on désirait, c'est ce qu'on a aimé, quoi. Donc ça c'est génial. Je crois qu'il y a une nouvelle rencontre, ils ont pris le temps d'écouter, on a un grand changement, et c'est génial pour les libraires, je pense.
Pourvu que ça dure. Alors, ouais, quelques petits conseils pour cette semaine, puisque les librairies ont réouvert.
Ouais. C'est surtout que on va pouvoir avoir les livres que je vous conseille là, vous allez pouvoir les acheter, vous allez pouvoir les. C'est ouais. ça qui était un peu ouais. stressant avant. Là, j'ai redécouvert un livre d'une dame qui s'appelle Sue Hubbard. Alors Sue, c'est comme S-U-E, et puis Hubbard, c'est H-U-2-B-A-H. Oh là là, H-U-2-B-A-R-D. Ça s'appelle Le Champ c'est de la Prison, Mercure de France. C'est un magnifique bouquin. Alors vous allez prendre un grand bol d'air. Ça se passe, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune londonienne, alors très sophistiquée, très intellectuelle, un peu bobo, qui est mariée à un intellectuel qui la trompe légèrement. Mais bon, leur mariage, il va pas très 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 bien. Et puis tout d'un coup, il meurt. Lui, il est irlandais, il a une maison en Irlande. Et elle décide d'aller visiter cette maison et de la vider, hein, puisqu'il est mort. Et là, c'est le choc de deux visions de la vie. C'est-à-dire qu'il y a cette londonienne avec ses hauts points, ses hauts talons, très sympa, très très sympa, hein, un peu bobo. Mmh. Et puis elle va se retrouver confrontée à des gens là-bas. Alors il y a le vent, les odeurs, les vagues, la pluie, le soleil, les éclaircies. Puis les gens qui habitent là, elle va redécouvrir l'amour avec un jeune Irlandais. Ça ne va pas durer très longtemps, mais elle va redécouvrir ce que c'est que le vrai amour, l'amour physique. C'est très 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 joli, c'est très les descriptions, moi, dans les livres de paysage, vous voyez, c'est un peu comme dans Victor Hugo, je tourne. Et là, pas du tout. En plus, le bouquin n'est pas très très gros, et ça donne envie d'y aller. Vous êtes vraiment, vous prenez un bol d'air, c'est génial, c'est magnifiquement écrit. Il y a de la poésie, il y a de la lumière, c'est lumineux, ça fait hyper bien, ça fait vraiment du bien, et c'est la découverte d'une femme que je connaissais pas du tout. Donc, allez-y, vous allez passer, mais à un moment, moi, ça a été vraiment une éclaircie. C'est une petite parenthèse dans les livres assez durs parce que les livres sont assez durs en ce moment. Hein. Et donc, allez-y, c'est vraiment de découvrir. Franchement, c'est un de mes coups de cœur.
Ah tiens, j'ai oublié de faire un coup de gueule. Je voulais envoyer. C'est tous les livres qui vont sortir sur le Covid. Je crois qu'il y a une trentaine de bouquins. Bernard-Henri Lévy, Émeric Caron, tous les professeurs qu'on a vus à la télévision. Bref, je ne sais pas à quoi pensent les éditeurs, parce que peut-être que je me trompe, mais franchement, les leçons de l'après-pandémie, alors que la pandémie n'est pas finie, les conseils, les leçons de morale et tout ça, c'est ahurissant, quoi. 30 livres. Enfin, vous avez dû les voir arriver sur vos catalogues.
Non, c'est pas arrivé encore. Oui, ils sont annoncés. J'espère qu'ils vont pas arriver. Et puis c'est surtout que les gens, ils ont plus envie. Ça. Enfin, les gens, ça fait deux mois qu'on leur parle de ça, qu'on n'arrête pas de leur parler de ça, donc ils ont envie de changer un peu d'horizon.
Ouais, je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout cette décision des éditeurs. Un livre, je suis tombée tout à fait par hasard dessus. Ça s'appelle L'ami, comme c'est souvent le cas. Moi, ça m'est pas tombé sur le pied, comme à vous. L'ami américaine de Serge Toubiana. Alors moi, je suis pas une fan particulière, pas une fan particulière de François Truffaut. En fait, c'est une femme qui s'appelle Hélène Scott que Serge Toubiana a rencontrée. C'est l'histoire de cette femme qui a eu une très longue correspondance avec François Truffaut. Donc que vous connaissiez ou pas Truffaut, ça n'a pas tellement d'importance, enfin ça en dit un petit peu plus sur lui, mais c'est surtout l'histoire de cette femme qui est assez incroyable, qui a été dans la résistance, qui avait un père russe immigré. Donc c'est vraiment toute ces femmes dans les années 30, enfin dans les années 40, qui ont été des femmes de conviction. Elle arrive en France et elle rencontre François Truffaut. Vous l'avez lu, vous avez aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant parce que c'est les rencontres Truffaut-Hitchcock. Elle raconte, puis c'est un Truffaut un peu différent qu'on découvre dans ce livre.
Et puis je trouve, j'aime bien ces livres qui montrent ces femmes qui ont ouvert la voie aux femmes d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, elles ont vraiment. Moi, j'adore ça. Et puis on redécouvre toutes ces femmes qu'on a un peu oubliées. C'était que de la littérature. Tous les hommes avaient fait l'histoire des années 30, des années 20. Puis là, on se rend compte que derrière ces hommes, il y avait beaucoup de femmes et que ces femmes, elles ont été hyper importantes, sinon capitales pour ce que ces hommes sont devenus. Puis ces femmes sont des personnages à part entière.
Ah oui, elle a une histoire incroyable. Et puis effectivement, elle a cette amitié. Alors elle appelle Truffaut ma truffe. Il l'appelle ma chère Scotty. Et effectivement, elle est morte à Paris. Elle est au cimetière Montmartre, pas très loin, ouais, de François Truffaut. Mais c'est avant tout l'histoire d'une femme. Vous rentrez effectivement dans le cinéma, mais j'ai trouvé ce livre absolument passionnant, cette femme tout à fait étonnante. Et Serge Toubiana a eu tout à fait raison de raconter sa vie. Il s'est dit, cette femme qui a toujours été dans l'ombre, elle a eu une trajectoire, une destinée remarquable. Donc ça s'appelle L'Amie américaine, c'est paru chez Stock, et l'auteur s'appelle Serge Toubiana. Gérard.
Je sais pas si vous êtes encore vivant, parce que si vous avez des ados qui sont à la maison depuis 2 mois, donc soit ils vous ont attaché, soit ils vous ont maltraité, soit ils en peuvent plus et tout. Et donc là, il manquait un peu de littérature. Et moi, je vous ai trouvé un bouquin. Alors souvent, les bouquins pour la littérature, pour ce qu'on appelle jeune adulte, parce que maintenant, on dit plus ado, hein, on dit jeunes, oui, adultes. C'est plus, voilà, ça les traumatise moins.
Voilà.
J'ai trouvé un bouquin super sympa. C'est une trilogie, c'est le but d'une trilogie. L'auteur s'appelle Brittany, bah, comme la Bretagne en anglais, avec deux T. Britannique, Cavallaro, C-A-V-A-2-L-A-R-O. Ça s'appelle les aventures de Charlotte Holmes, c'est chez Pocket Junior. Alors, je trouve l'idée, elle est géniale, c'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis dans une grande université américaine, et puis vous avez une fille qui s'appelle Jamie Watson. Et qui est Jamie Watson? Eh ben, c'est le petit-fils du docteur Watson.
Ah
et
oui.
Qu'est-ce qu'il va rencontrer dans cette université? C'est Charlotte Holmes. Et alors, c'est l'arrière-petit-fils de Sherlock Holmes, vous voyez la rencontre. Et alors, j'aime bien parce que dans le résumé, derrière, ils disent que c'est une jeune fille de caractère. En fait, c'est une chieuse. Hein.
C'est une manière de dire que c'est une emmerdeuse.
Oui, mais alors qu'elle a du caractère, alors c'est ça, on va me dire que je suis sexiste, donc non, elle a du caractère, parce que, voilà, mais enfin, bon, c'est une chose, c'est comme il y a des chieurs. Et alors, il va se passer un truc, c'est un abominable meurtre dans cette université, et ils vont être accusés, donc ça va être, ils vont se lier. Alors lui, il est amoureux, hein, secrètement, le petit-fils de Holmes, du docteur Watson, et vous allez voir, vous êtes dedans, moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça génial, et je me suis farci tous les trois.
Donc
les trois
c'est à partir de... Ah ouais, comment ça s'appelle? Redites le nom.
Ça s'appelle Les Aventures de Charlotte Holmes.
Les Aventures de Charlotte Holmes, c'est à partir de quel âge? 15 ans?
Avant 13 ans, ouais. 13 ans,
ah bon, c'est un jeune adulte, c'est 12 ans maintenant. Bon, bah très bien.
Attendez, ils sont consommateurs et tout, on est un jeune adulte.
Les Aventures de Charlotte Holmes, donc ça se trouve en collection Pocket Junior, donc si vos enfants commencent à lire, et elle s'appelle l'auteur Brittany Cavagliaro. Merci beaucoup Gérard, allez retourner dans votre vitrine. À bientôt, merci à vous. On se retrouve nous dans un instant, on va commenter l'actualité. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à vos vacances? On y revient dans un instant avec vous, à tout de suite.